Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Cette édition des œuvres philosophiques propose idées d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, essai bref publié par Emmanuel Kant en 1784, sous la direction de Jean-Yves Chateau. Il ne constitue donc pas un ouvrage original de Chateau, mais une présentation éditoriale du texte kantien. Relevant de la philosophie de l'histoire et de la philosophie politique des Lumières, le texte cherche un principe intelligible dans le désordre apparent des actions humaines. Kant ne prétend pas raconter les faits historiques dans leurs détails. Il examine plutôt la possibilité de les comprendre selon un fil directeur, celui d'un développement progressif des dispositions rationnelles de l'espèce. Son hypothèse centrale est téléologique : la nature conduirait indirectement les êtres humains, y compris par leurs conflits, vers des institutions civiles plus justes et ultimement vers un ordre cosmopolitique. Organisé autour de 9 propositions, l'essai articule liberté, antagonisme social, droit-guerre et progrès moral. Sa portée tient autant à son ambition théorique qu'aux tensions critiques qu'il laisse ouvertes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un fil directeur naturel pour penser le désordre de l'histoire, Kant pardonne constat difficile à écarter considéré à l'échelle des individus. Les actions humaines paraissent incohérentes, intéressées et souvent destructrices. Les projets privés se heurtent, les peuples alternent entre essor et effondrement, et aucun plan commun ne semble gouverner le cours des événements. Pourtant, Kant estime que l'histoire peut être examinée sous un autre angle. Sans nier la liberté telle qu'elle se manifeste dans les choix humains, il propose de rechercher, au niveau de l'espèce, une régularité analogue à celle que l'homme observe dans la nature. Ce déplacement d'échelle est décisif. Ce qui reste imprévisible pour une personne ou une génération peut participer sur une longue durée au développement des capacités humaines. Le fil directeur n'est pas une prédiction précise ni une justification immédiate de tout événement. Il sert d'hypothèse philosophique pour rendre pensable une orientation générale du devenir historique. Kant distingue ainsi le travail de l'historien empirique, attentif aux causes et aux documents, de celui du philosophe qui interroge la cohérence possible de l'ensemble. Cette méthode donne à l'histoire une intelligibilité sans supprimer sa complexité. Elle explique aussi pourquoi Kant parle d'un plan de la nature plutôt que d'un plan consciemment choisi par les hommes. Les acteurs poursuivent des objectifs particuliers, mais leurs interactions peuvent produire des effets institutionnels et culturels qui dépassent leurs intentions. L'essai formule ainsi une philosophie de l'histoire ambitieuse, fondée sur une lecture rationnelle du temps long. Deuxièmement, le développement des facultés rationnelles dépasse la durée d'une vie. Une proposition essentielle de Kant affirme que les dispositions naturelles d'une créature sont destinées à se développer complètement, chez l'être humain. Cette idée prend une forme particulière, la raison, la culture et les capacités techniques ne peuvent atteindre leur maturité dans l'existence limitée d'un individu. Le progrès appartient donc à l'espèce, par la transmission entre générations. Chaque époque hérite de savoirs, d'institutions et de problèmes qui rendent possible un développement ultérieur, même lorsque les contemporains ne peuvent en voir l'issue. Cette perspective récuse une vision selon laquelle l'humanité serait achevée par nature ou condamnée à répéter indéfiniment les mêmes erreurs. Elle ne garantit pas non plus un perfectionnement automatique de chaque personne. Kant vise un processus collectif, lent et conflictuel, où les capacités rationnelles sont progressivement exercées. La faiblesse physique relative de l'humain joue ici un rôle paradoxal, ne disposant pas d'instinct suffisant pour répondre à toutes ses nécessités, il doit inventer, apprendre, travailler et organiser son existence. La culture devient ainsi moins un ornement qu'une conséquence de sa condition. Cette conception explique pourquoi Kant accorde une valeur philosophique à l'éducation, au droit et à la mémoire historique. Ces médiations permettent aux acquis de ne pas disparaître avec ceux qui les ont produits. Toutefois, le développement des talents ne se confond pas avec la moralité. Une société peut devenir raffinée, savante et techniquement puissante sans être juste. Cette distinction préserve la force critique du texte. Le progrès des moyens humains doit encore être orienté par des institutions et des principes capables de respecter la liberté de chacun. Troisièmement, l'insociable sociabilité fait du conflit un moteur de civilisation. Le concept le plus célèbre de l'essai, l'insociable sociabilité, désigne une double tendance constitutive de la vie humaine. Les individus recherchent la société parce qu'elle leur apporte protection, reconnaissance, échange et possibilité de développement. Mais ils veulent aussi imposer leurs préférences, défendre leurs intérêts et conserver leur indépendance. La coexistence produit donc rivalité, ambition, désir de possession et volonté de domination. Kant ne présente pas ces dispositions comme moralement admirables. Il soutient plutôt qu'elles ont un effet historique, la résistance que chacun rencontre chez les autres contraint les facultés à sortir de la passivité. La concurrence stimule le travail, l'invention, la formation du goût et l'organisation sociale. Sans cette tension, les talents risqueraient de demeurer à l'état de possibilité dans une harmonie stagnante. Le raisonnement de Kant est cependant plus subtil qu'une célébration du conflit. L'antagonisme est productif seulement parce qu'il oblige les humains à rechercher des règles de coexistence. Il ne fonde pas le droit, il rend nécessaire son établissement. Les institutions doivent transformer la confrontation des intérêts en liberté compatible pour tous. Cette analyse éclaire une dimension durable de la pensée politique moderne. Les sociétés ne reposent pas sur la seule bienveillance, mais sur des mécanismes qui canalisent des motivations divergentes. Elle révèle aussi une limite normative. Une civilisation issue de la rivalité peut accroître les connaissances et les arts sans devenir moralement meilleure. La discipline extérieure, la politesse et la prospérité ne remplacent pas une volonté orientée vers le bien. Kant maintient donc une exigence de moralisation au-delà de la seule dynamique sociale. Quatrièmement, la constitution civile juste comme problème politique majeur pour Kant. Le développement humain exige une constitution civile où la liberté de chaque personne puisse coexister avec celle des autres selon des lois universelles. Cette exigence répond directement à l'insociable sociabilité. Si chacun suit seulement son intérêt, la liberté devient exposition à la violence ou à l'arbitraire. Si le pouvoir impose une unité sans droit, l'ordre se paie par la suppression de l'autonomie. Le problème politique consiste donc à instituer une contrainte légale qui protège au lieu de nier la liberté. Kant décrit cette tâche comme la plus difficile et la dernière à être pleinement résolue, car elle dépend de la nature humaine même. Il formule l'image célèbre du bois tordu de l'humanité. Aucun ordre parfaitement droit ne se fabrique aisément à partir d'êtres marqués par leurs inclinations et leurs intérêts. Cette difficulté concerne les citoyens, mais aussi ceux qui gouvernent. Un pouvoir humain ne peut être supposé spontanément sage ou désintéressé. Il doit être soumis à des principes et à des limites. Le texte ne fournit pas un programme institutionnel détaillé au sens contemporain. Sa contribution est plus fondamentale, il relie le progrès historique à la construction d'un ordre juridique, plutôt quoi la seule amélioration intérieure des individus. Une bonne constitution rend possible le plein usage des facultés, favorise la sécurité des droits et crée les conditions d'une culture durable. Kant distingue ainsi la civilité de la moralité, tout en soulignant que des institutions justes peuvent préparer un rapport plus rationnel à la liberté. La politique devient alors un terrain indispensable, bien que non suffisant, de la destination humaine. En dernier lieu, du conflit entre États à l'horizon cosmopolitique de la paix, Kant étend au rapport entre États le diagnostic formulé pour les individus. Même lorsque chaque État possède un ordre juridique interne, les relations internationales peuvent rester soumises à la méfiance, à la compétition et à la guerre. Cette situation empêche une sécurité durable et détourne des ressources considérables vers la préparation des conflits. Dans Idée d'une histoire universelle, Kant envisage que les contraintes mêmes de cette rivalité poussent progressivement les États vers une association plus large. L'interdépendance économique, le coût croissant de la guerre et la nécessité de préserver leur puissance peuvent les conduire à reconnaître l'avantage d'un cadre commun. L'horizon est celui d'un État cosmopolitique dans lequel les dispositions de l'espèce pourront se développer plus complètement. Il convient de lire cette thèse avec précision. Kant ne décrit pas simplement une unification administrative immédiate du monde, ni une paix obtenue par la disparition des différences politiques. Il cherche les conditions juridiques grâce auxquelles les États ne seraient plus dans un état de nature les uns envers les autres. L'association internationale doit limiter la guerre et rendre possible une coexistence réglée. Le cosmopolitisme kantien associe ainsi une lecture historique du progrès à une exigence normative. La paix ne relève pas seulement d'un souhait moral. Elle suppose des institutions et des règles. L'essai reconnaît aussi le caractère incertain et très lent de cette évolution. Le plan de la nature reste une idée directrice, non une preuve que tout conflit conduit au bien. Cette réserve est essentielle pour une lecture actuelle. La coopération internationale doit être construite et préservée, non attendue comme un résultat inévitable de l'histoire. En conclusion, cette édition convient en priorité aux étudiants en philosophie, aux lecteurs de Kant et à toute personne qui souhaite comprendre une source majeure de la réflexion moderne sur le progrès, le droit international et le cosmopolitisme. Sa brièveté rend le texte abordable, mais sa densité demande une lecture attentive. Chaque proposition condense des liens importants entre nature, liberté, culture, institution et paix. Le principal bénéfice intellectuel est d'apprendre à distinguer plusieurs niveaux d'analyse. Kant invite à ne pas confondre le désordre des conduites individuelles avec l'absence totale de structure historique, le développement culturel avec le progrès moral, ou encore la paix souhaitée avec les conditions juridiques qui pourraient la rendre durable. Cette rigueur demeure utile pour examiner les discours contemporains sur la mondialisation, les conflits et le devenir des institutions. Par rapport à de nombreuses philosophies de l'histoire, l'essai se distingue par son format concentré et par une tension féconde entre optimisme et lucidité. Kant défend une orientation possible vers un ordre cosmopolitique sans dépeindre les humains comme naturellement bons ni les événements comme moralement justifiés. Le conflit est analysé comme une force susceptible de développer les capacités, mais il reste un problème à soumettre au droit. Cette articulation entre mécanisme historique et exigence normative donne au texte sa singularité. Il ne propose ni une chronique historique, ni une utopie détachée des résistances réelles. Il offre un cadre conceptuel exigeant pour penser comment la liberté humaine, malgré ses antagonismes, pourrait être organisée en vue d'une coexistence plus juste. Si vous souhaitez soutenir Jean-Yves Chateau, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.